La route des secrets. Entrons ensemble dans l'histoire, les mythes et légendes de la belle Occitanie. Bonjour chers amis, bonjour et bon dimanche à tous et à toutes. Nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle émission de la route des secrets, la route des secrets, histoire, mythes et légendes de la belle Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands personnages du XXe siècle en Occitanie, celui dont la chanson nous parle de « Quesaco que brunzino, il est motur de vedrino, tout seul sur sa machine ». Vous aurez reconnu, bien évidemment, Charles Toussaint Védrine, dit Jules, comme tout le monde l'appelait, qui est né à Saint-Denis, alors département de la Seine, actuellement Seine-Saint-Denis, le 29 décembre 1881, et mort le 21 avril 1919 à Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme. Cet aviateur français a fait parler de lui. Il a fait parler de lui dans le département de l'Aude durant les années 1910, 1911, 1912 jusqu'en 1914. Alors nous allons évidemment découvrir ensemble Charles Toussaint Védrine, qui a commencé à travailler dès l'adolescence, qui est d'abord un ouvrier couvreur, puis plombier zingueur, avant de suivre des cours du soir à l'Institut catholique des arts et métiers de Lille, à l'ICAM pour des ch'tis qui nous écoutent. C'est un passionné par les exploits aéronautiques des pionniers de l'air qui, dès 1908, vont défrayer la chronique. Ils s'envolent, ils volent et lui, il n'a plus qu'un désir, notre Jules, c'est de voler lui aussi. Alors après avoir exercé plusieurs métiers, le rapprochant de l'industrie aéronautique, il devient en fin 1909 metteur au point, comme l'on dit, aux usines de Gnome, c'est-à-dire c'est un mécanicien de premier ordre, et comme il a un tempérament bien trempé, il se fait vite repérer à l'école Farman du camp de Châlons en 1910 par un autre extravagant. C'est un extravagant pilote et acteur britannique qui s'appelle Robert Lorraine. Notre Jules profite de l'occasion pour mettre suffisamment d'argent de côté pour passer son brevet. Donc il passe son brevet de pilote à l'école Blériot, le très célèbre Blériot, grand aviateur lui aussi. Et en fin novembre, à partir de seulement 5 leçons, car c'est un élève très doué, et lors de la réunion du 7 décembre 1910, à l'Aéroclub de France, on lui décerne un brevet de pilote dont le numéro est 312. Le 11 mars 1911, il effectue à bord d'un Morane Borel, c'est un des premiers avions, le vol Toulouse-Carcassonne, et devient ainsi le premier aviateur de l'Aude, chers amis. Premier aviateur de l'Aude, Jules Védrine. Ce 23 mars 1911, il va survoler Paris à basse altitude, il va passer près d'un cortège de la mi-carême, sur laquelle il lance une pluie de fleurs, ce qui le transforme en héros national. Il va être embauché chez Morane, grande maison de l'aviation, et il va gagner la course Paris-Madrid, qui couvre près de 1200 km à vol d'oiseau, organisé par un journal qui est très célèbre à l'époque, qui s'appelle Le Petit Parisien. Et ce 26 mai 1911, avec son monoplan Morane-Saunier, eh bien, il va empocher la coquette somme de 100 000 francs pour cet exploit. 100 000 francs, c'est une somme colossale. C'est environ 140 000 euros. D'aujourd'hui, c'est vraiment une jolie somme dont la moitié de la dotation totale est prévue pour cette course. Donc à cette occasion, il empoche la seconde prime de la Coupe Pommery. Et comme il est avide de trophées, deux jours plus tard, le 28 mai 1911, il s'envole déjà pour cette fois tenter de remporter la course du petit journal Paris-Rome-Turin. Voilà, donc il va parcourir plus de 2000 km. Il va gagner aussi et prendre part et gagner le Grand Prix Dutch en août 1911, etc. Ce qui est intéressant pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Chers amis, parce qu'il est quand même temps de comprendre un peu qui est ce Jules Vitrine, il est d'origine auvergnate. Il est marié à une creusoise qui est née à Paris, qui s'appelle Amélie Mélanie Noémie Lejeune, dont la famille réside au hameau dit Le Mont, dans la commune de Bussière-Dunoise. Pour ceux qui connaissent la Creuse, ils ont eu quatre enfants, Jeanne, Henri, Suzanne et Émile. Et en 1911, notre Jules a atterri à Bussière à bord de son Morane Borel alors qu'il participait au rallye aérien Paris-Pau, en partie à cause du brouillard et en partie pour voir sa famille. Poussé par ses amis, et c'est là où l'Aude, le département de l'Aude, commence évidemment à vibrer, et en particulier parmi ses amis le journaliste sportif Jacques Mortane, il va s'engager en politique dès le début de l'année 1912 pour, j'ouvre les guillemets, donner des avions à la France. De quoi s'agit-il en fait, chers amis? Il s'agit de promouvoir le développement de l'arme aérienne. Oui, de l'arme aérienne, car les armées, jusqu'à ce moment-là, n'avaient pas d'avions. Et à partir de 1912, dans un contexte de tension géopolitique avec l'Allemagne, car l'empereur allemand Guillaume II fait parler de lui, il est allé en bateau à Agadir, il est allé à Tanger, au Maroc, et il est là, il bouscule un petit peu les accords internationaux, il montre que l'Allemagne est une puissance coloniale, et ça fait trembler la France. Donc la France s'intéresse de plus en plus à l'arme aérienne, et notre Jules Védrine, va devenir un acteur politique qui cherche à épanouir dans les consciences la nécessité de mettre des avions militaires à la disposition de la France. Et donc, il est un des principaux acteurs de la souscription nationale en faveur de l'aviation. Et cette souscription sans égale permettra à la France d'avoir plus de 200 appareils entre 1912 et 1913. C'est donc une grande, grande action politique. C'est avec cette motivation qui se présente aux élections législatives partielles de Limoux en mars 1912. Sa campagne est d'autant plus notable, et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, car elle est menée partiellement en se déplaçant de commune, en avion, dans la circonscription de Limoux, qui couvre la haute vallée de l'Aude, le pays de Sceaux, le Kerkorb, c'est-à-dire la région de Puyvert, Chalabre, la vallée de l'Ers. Et il couvre les villages, il jette de son avion des papillons, des petits papiers tricolores qui font sensation. Et sa campagne, donc menée de commune en avion, fait sensation. Et ses partisans sont nombreux. Mais puisque tout ça va se faire en 15 jours, c'est extrêmement rapide. Et malheureusement, cette élection législative partielle ne lui permettra pas de devenir député de l'Aude. Il va devoir s'incliner de 600 ou 700 voix seulement face à Jean Bonnaille, qui est le représentant du candidat sortant, le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, Dujardin-Beaumès, époux de Marie Petier. Dujardin-Beaumès est peintre, Marie Petier est peintre, Pour ceux qui connaissent le département de l'Aude et le sud du département de l'Aude, à Limoux, vous trouverez le musée Petier qui présente de très belles collections de peintures, en particulier de cet esprit pompier ou de cet esprit impressionniste qui savent vraiment toucher les cœurs. Mais revenons donc à notre Jean Bonnaille, qui est industriel à cette colombe sur l'Ers et qui se présente, et lui va donc l'emporter. Devant ce qui apparaît comme un vol électoral aux yeux de ses partisans, de véritables émeutes éclatent à Limoux et dans la vallée, nécessitant l'intervention d'un fort contingent militaire durant plusieurs jours. Jules Védrine, lui, doit se résoudre à l'échec. Il ne sera pas plus élu en mai 1914 lorsqu'il se représente une nouvelle fois dans la même circonscription. Cependant, il est adopté par la population locale qui avait mené tambour battant la première élection. Au son de la chanson occitane toujours populaire, créée pour l'occasion sur l'air de la valse brune, la canzone de Vedrino, que je vous ai chanté il y a un instant. Il va donc même installer sa femme et ses enfants à Limoux, qui résideront dans la ville audoise de 1913 à 1918. Parallèlement, le 13 janvier 1912 à Pau, il bat un record de vitesse pure en avion, sur un avion de Père Ducin de type monoplan à moteur NOM, c'est-à-dire 100 chevaux. Et il va atteindre la vitesse inimaginable de 145 km/h, ce qui est fantastique pour l'époque. En février de la même année, puisque en janvier c'est à Pau, en février 1912, encore une fois, il se joue de la vitesse et il couvre cette fois 159 km en une heure avec un autre monoplan. Fantastique. Mais le 29 avril 1912, il va s'écraser rue de l'Isère, à proximité de la voie ferrée à Épinay-sur-Seine, au cours d'un trajet Douai-Madrid qu'il comptait réaliser pour tenter de s'emparer de la coupe Pommerie, coupe offerte par les grands champagnes. Il est grièvement blessé lors du crash de son monoplan du Père Ducin, à la suite de la panne de son moteur. Mais il tiendra tout de même quelque temps après cela dans son propre rôle, puisque les studios Éclair vont lui demander de tourner un film sur lui-même qui s'appellera Le roman de Védrine. Voilà. Deux ans plus tard, en 1913, il réalise la première liaison aérienne France-Égypte avec escale. Et à noter, il part de Nancy le 20 novembre et arrive au Caire le 29 décembre, devenant d'ailleurs, chers amis, au passage, le premier pilote à se poser à Beyrouth, au Liban. Et je dis ça pour nos amis libanais. Pendant la Première Guerre mondiale, il est mobilisé dans l'aviation, à l'âge de 32 ans, il signe ses avions d'une tête de vache ou de l'inscription « La Vache », sans doute un souvenir de ses origines limousines et peut-être aussi un guide de provocation. Rappelons-nous ces trains de tirailleurs et de soldats qui partaient de France vers les tranchées avec des têtes de vache qui étaient une allusion à la Valkyrie, largement reconnue en Allemagne, cette fameuse musique, cet opéra. Et on disait donc la vache qui rit, et pour ceux qui connaissent évidemment le fromage enveloppé dans de l'aluminium, voilà, ça vient de là. C'était un fromage qui était proposé et qui fut proposé après la guerre de 14-18 aux anciens combattants. Notre Jules Védrine va être affecté le 8 janvier 1915 avec le grade de caporal à l'escadrille MS3, que tout le monde connaît et que vous allez connaître, chers amis, à partir d'aujourd'hui, sous le nom de Escadrille des Cigognes. Il va accueillir et former au combat, en 1915, un nommé Georges Guinemer, dont vous aurez l'occasion évidemment de réentendre parler plus tard, grand aviateur. Notre Védrine sera nommé adjudant en 1915 et il effectuera des missions de combat au-dessus de Verdun et sera même décoré pour ses fonctions d'instructeur. Il se spécialise dans les missions difficiles, voire impossibles. Il convoie des espions français derrière les lignes allemandes, puis il les récupère. C'est incroyable, il n'a peur de rien. En août 1916, on va le photographier avec Carlo Benmessen, un pilote de chasse belge. Et évidemment, tout cela sera largement utilisé dans la propagande. Un élément qui me paraît quand même très intéressant, c'est qu'il va faire des vols d'essai pour des avions un petit peu innovants pendant la guerre. Il sera cité à la fois à l'ordre de l'armée, il est nommé officier sous-lieutenant le 26 janvier 1918. Dans l'entre-deux-guerres, notre Jules Vidry, dont je le rappelle, dont la famille, les enfants vivent à Limoux, va continuer donc évidemment à être au cœur du phénomène aéronautique et de l'aviation civile, puisque le 19 janvier 1919, il va poser son avion sur les toits des galeries Lafayette du boulevard Haussmann, une terrasse de 28 mètres de long sur 12, malgré l'interdiction de la préfecture de Paris. Voilà, le défi avait été lancé par les grands magasins. Il va empocher la somme de 25 000 francs offerts pour cet exploit. Et à contrepartie, il sera verbalisé par la police avec une amende de 16 francs. Le 21 avril 1919, lors du vol d'inauguration de la ligne Paris-Rome, à bord d'un bimoteur Caudron C-23, Jules voit un de ses deux moteurs de l'avion tomber en panne. Et celui-ci va s'écraser à Saint-Rambert-d'Albon. Malheureusement, chers amis, Jules Védrine et son mécanicien Guilain ne survivront pas et ils vont mourir tous les deux sur le coup quand l'avion va s'écraser à Saint-Rambert-d'Albon. Je vous rappelle que Saint-Rambert-d'Albon est une commune située au nord du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Pour ce qui est de notre Védrine, de notre Jules Védrine, il sera enterré au cimetière parisien de Pantin, en grande pompe. Pour l'anecdote, rappelons-nous que son fils, Henri Védrine, sera député de l'Allier, après, pour le PCF, pour le Parti communiste français. Je voudrais en profiter pour vous parler un petit peu de l'Aéroclub de France, qui est l'une des plus anciennes associations françaises d'aviateurs encore active. Et ce seul aéronautique club de France, qui a été fondé en 1897, est la plus ancienne de notre pays. Il a été créé sous l'impulsion de différentes personnes, dont en particulier Ernest Ardécon, Léon Serpollet et le comte Henri de Lavalette. Voilà. Ce qui est très important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que devant l'afflux des néophytes après sa création, l'aéroclub est chargé de délivrer des brevets de pilote à partir de 1909, puis d'édicter des règlements, des tâches qui seront reprises par ce que l'on appellera plus tard la DGAC, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Aviation Civile en 1919. Pour ceux qui s'intéressent à l'aviation, l'Aéroclub de France publie une revue depuis, d'abord ça s'est appelé l'Aérophile, puis à partir de 1997, ça va s'appeler l'Aéro France. C'est une revue semestrielle qui est devenue la revue de l'Aéroclub de France depuis 2019. Donc, à se rappeler. Je voudrais en profiter, chers amis, pour vous parler. Nous sommes dans cette magnifique région du sud du département de l'Aude, au cœur de l'Occitanie, et nous avons la chance d'avoir plusieurs aérodromes qui couvrent le territoire de l'Aude. Je voudrais valoriser aujourd'hui le club aéronautique de Puyvert. Car à Puyvert, près de Quillan, au cœur du Kerkorb se trouve un club de vol à voile. Un club de vol à voile. Nous avons donc là une rareté qu'il faut valoriser. Alors, le vol à voile, de quoi s'agit-il ? Que peut-on faire exactement ? Adolescents, jeunes adultes, il y a des stages de formation, mais qu'est-ce donc que le vol à voile que l'on peut découvrir à Puyvert avec un club fantastique et une super équipe ? Le vol à voile, en fait, consiste à voler dans les airs à bord d'un aérodyne propulsé par la seule force des courants atmosphériques ascendants, à l'image des oiseaux voiliers. Le terme s'applique particulièrement à la pratique du planeur. Voilà, c'est du planeur que l'on peut faire à Puyvert et dans le ciel environnant, dont les adeptes sont les vélivoles. Mais la même technique est utilisée par les pratiquants du vol libre, en deltaplane ou en parapente, pour information. La voltige en planeur, elle, ne fait pas appel au courant ascendant, sauf exception, mais seulement au remorquage par avion ou par câble. C'est ce que vous pourrez découvrir en allant découvrir l'aérodrome de vol à voile de Puyvert. Quelle soit de loisir ou de compétition, la pratique du vol à voile consiste en fait à exploiter au mieux ce qu'on appelle les ascendances, qui peuvent être thermiques, c'est-à-dire créées par l'énergie solaire, ou dynamiques, par un effet de pente ou une onde de ressaut, pour prolonger le vol, gagner de l'altitude ou parcourir de grandes distances le plus vite possible. Certains vélivoles, filles et garçons, apprécient la liberté, le plaisir esthétique et la joie de maîtriser leur machine. D'autres se concentrent sur leur performance en compétition. Ces concours confrontent les capacités des pilotes et copilotes, dans le cas des machines biplaces, à reconnaître et utiliser les conditions aérologiques pour effectuer à la plus grande vitesse possible chaque jour un circuit donné en fonction des conditions météorologiques. Sachez, chers amis, que l'histoire du vol à voile se confond un peu avec celle de l'aviation, car les premiers êtres humains à voler sur un aéronef plus lourd que l'air le firent sur des planeurs. On peut parler bien sûr de Georges Callet, Otto Lilienthal, les frères voisins, les frères Wright, et bien évidemment, le moins connu, un Français, le général Guillaume Régnier, qui était ingénieur, officier du génie, qui était né à Angoulême, dans la Charente, et qui avait fait un vol avec une aile de sa fabrication et qui s'était jetée du haut de la tour Ladan et qui va planer au environ 300 mètres, franchir la Charente et malheureusement à se casser une jambe en atterrissant. Ça c'est une autre histoire, mais ça s'est passé en 1801. On est donc bien loin. Pour ceux qui souhaitent découvrir le vol à voile dans notre belle région Occitanie, dans le sud du département de l'Aude, à proximité donc de Carcassonne, Limoux, Quillan, il y a donc l'aérodrome de Puyvert à découvrir. Et pour cela, je vous invite à contacter la mairie de Puyvert qui vous donnera toutes les informations pour contacter le club de vol à voile à l'aérodrome de Puyvert. Voilà, chers amis. Aujourd'hui, nous avons porté notre regard sur Jules Védrine, le célèbre pilote d'avion qui vécut un temps dans le département de l'Aude, se présenta aux élections législatives partielles de 1912 et de 1914 et qui vint ici vivre avec sa famille avant de continuer son chemin dans les airs vers d'autres cieux. Quant à nous, nous allons nous retrouver dès la première semaine de mai pour une nouvelle émission de la Route des Secrets. Car les histoires, mythes et légendes nous attendent et il y a beaucoup à découvrir. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux dimanche.